Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, Sadhana. Terme sanskrit qui désigne une discipline spirituelle, réunit 8 conférences de Rabindranath Tagore, publiées en anglais en 1913, sous le titre Sadhana, The Realization of Life. Poète, penseur et futur lauréat indien du prix Nobel de littérature la même année, Tagore y présente des éléments majeurs de la pensée indienne, notamment issus des Upanishads. À un public occidental, il ne propose ni un manuel rituel ni un système doctrinal fermé. Son propos prend la forme de méditation philosophique sur le rapport entre la personne, la nature, le divin et la communauté humaine. Les essais interrogent la création, la conscience de soi, le mal, la beauté, le travail et la liberté. Leur unité repose sur une thèse nette, une existence humaine pleinement réalisée ne procède pas du repli sur un moi séparé, mais de la reconnaissance active de notre participation au réel universel. La prose de Tagore associe raisonnement, références spirituelles et images naturelles afin de rendre cette vision à la fois intellectuellement accessible et éthiquement concrète. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la réalisation de soi passe par la relation avec le monde. Le point de départ de Sadhana est une critique de la conception du sujet comme entité autonome, définie avant tout par ses frontières, ses possessions ou ses intérêts. Pour Tagore, le moi isolé ne constitue pas une vérité ultime, il est une fonction nécessaire de la vie pratique, mais devient une source de souffrance quand il prétend se suffire à lui-même. La connaissance de soi exige au contraire de percevoir les liens qui unissent chaque personne aux autres êtres, à la nature et à une réalité spirituelle plus vaste. Cette idée ne demande pas la disparition de la singularité humaine. Tagore cherche plutôt à montrer que la personnalité trouve son sens en participant à ce qui la dépasse. L'individu ne devient donc pas moins réel en entrant dans une relation de communion. Il devient plus conscient de sa place et de sa responsabilité. Cette position distingue son approche de deux impasses opposées, un individualisme qui fait de la séparation une liberté, et un effacement impersonnel qui nierait la richesse de la personne. La réalisation de la vie désigne une intégration sentir que la vie intérieure, les relations humaines et le monde visible relèvent d'une même unité. Dans ce cadre, la liberté ne consiste pas à s'extraire de toute dépendance, mais à consentir lucidement aux relations qui rendent l'existence féconde. Deuxièmement, la nature comme manifestation sensible de l'unité divine, chez Tagore, la nature ne sert pas seulement de décor poétique ou de réserve de symboles. Elle est le lieu concret où peut se pressentir une présence divine immanente au monde. Les formes, les rythmes et la beauté du vivant rendent sensible une unité qui ne se laisse pas réduire à un objet ou à une définition abstraite. Cette orientation s'oppose à une vision où le monde matériel serait seulement un obstacle à la vie spirituelle. Pour Tagore, mépriser la nature reviendrait à méconnaître une dimension essentielle de la réalité. La contemplation haine est cependant pas une fuite esthétique. Elle exerce l'attention, corrige le regard utilitaire et aide à reconnaître que le réel possède une valeur qui excède son usage immédiat. Les images de lumière, de saison, de fleurs ou de paysages soutiennent ainsi une argumentation philosophique. La beauté révèle que l'univers peut être vécu comme relation et non comme simple assemblage de choses. Tagore ne confond pas Dieu avec chaque objet particulier. Il insiste plutôt sur le fait que le divin se donne à reconnaître dans la cohérence vivante du monde. Cette perspective fonde une attitude de respect envers le vivant et rend impossible une spiritualité exclusivement tournée vers un au-delà détaché de la terre. Troisièmement, le mal et la souffrance pensés comme limites à dépasser. Sadhana affronte une difficulté classique de la pensée religieuse, comment comprendre le mal dans un monde qui participe du divin. Tagore ne traite ni la souffrance ni la faute comme des illusions qu'il suffirait de nier. Elles sont des expériences réelles, qui affectent les personnes et exigent une réponse morale, mais il refuse de leur attribuer un statut souverain ou définitif. Le mal correspond, dans son cadre, à ce qui ferme la conscience, coupe les liens et empêche la perception de l'unité. L'ignorance, l'avidité et la vanité du moi enferment ainsi l'être humain dans une vision fragmentée de la réalité. La délivrance ne peut alors être comprise comme destruction du monde, du corps ou de toute individualité. Elle consiste à supprimer les obstacles négatifs qui déforment le rapport au réel. Cette nuance est centrale. Tagore valorise la vie et ne fait pas du salut une évasion hors de l'existence. La souffrance peut devenir un moment de transformation lorsqu'elle conduit à une connaissance plus juste, à la compassion et à une relation moins possessive avec autrui. Une telle lecture ne fournit pas une explication exhaustive de chaque malheur. Elle propose plutôt un critère spirituel et éthique, ce qui agrandit la conscience et la solidarité participe de la réalisation, tandis que ce qui isole et domine entretient la servitude. Quatrièmement, amour et beauté comme voie de dépassement du possessif. Tagore accorde à l'amour et à la beauté une fonction de connaissance, et non un simple rôle sentimental ou décoratif. Tous deux montrent que la relation la plus profonde à autrui et au monde ne relève pas de la possession. Aimer implique de reconnaître une valeur qui ne peut être ramenée à son profit personnel. De même, faire l'expérience du beau suspend un instant le calcul de l'utilité et ouvre la conscience à une plénitude perçue comme gratuite. Cette analyse permet à Tagore de relier sensibilité, morale et spiritualité. Une personne qui ne voit dans les êtres et les choses que des instruments demeure enfermée dans son intérêt immédiat. A contrario, l'amour et la contemplation esthétique rendent possible une participation plus généreuse au réel. Cette générosité ne signifie pas passivité ou abandon du discernement. Elle combat surtout la volonté de réduire autrui à une fonction, à une richesse ou à un prolongement de soi. Les références de Tagore aux traditions indiennes dialoguent ici avec une intuition universelle, la dignité humaine se manifeste dans la capacité de sortir de la seule affirmation personnelle. Le livre fait donc de la beauté une expérience philosophique sérieuse. Elle révèle l'harmonie possible entre la conscience individuelle et le monde, tandis que l'amour transforme cette intuition en attention concrète envers les autres. En dernier lieu, une spiritualité incarnée dans le travail et la responsabilité humaine. La discipline spirituelle décrite par Tagore ne se limite pas à la méditation ou à une expérience intérieure privée. Elle engage une manière de vivre parmi les autres. Le travail. Quand il participe à une œuvre commune et ne devient pas uniquement une recherche de gain ou de prestige, peut exprimer la relation créatrice entre la personne et le monde. Cette valorisation de l'action protège Sadhana contre une lecture purement contemplative de la spiritualité. Tagore ne sépare pas la vérité intérieure des conditions concrètes de la vie humaine, la pureté personnelle doit se traduire par une attention aux autres, une maîtrise de la vanité et une participation responsable à la société. Sa critique vise moins la richesse matérielle en elle-même que le désir de la conserver comme marque de séparation et de supériorité. Lorsque les biens, le rang ou la réussite deviennent des fins absolues, ils limitent la capacité de communion. Le travail prend une autre portée lorsqu'il aide à dépasser cette logique et à contribuer à une réalité partagée. Cette dimension explique la portée durable de ses essais. Face aux formes modernes de fragmentation, ils invitent à penser ensemble intériorité, relations sociales et rapport à la nature. Leur réponse reste philosophique plutôt que programmatique, elle propose une orientation du regard et de la conduite, non un modèle politique ou économique détaillé. En conclusion, Sadhana convient aux lecteurs qui souhaitent découvrir la pensée spirituelle de Tagore dans un format bref, ainsi qu'à ceux qui cherchent une entrée accessible dans certains thèmes des Upanishads sans passer par un traité universitaire. Il intéressera aussi les lecteurs de philosophie religieuse, de littérature méditative et de réflexion écologique ou relationnelle. À condition de ne pas attendre des exercices précis, une doctrine systématique ou des réponses techniques aux problèmes contemporains. Son bénéfice principal est de déplacer les questions habituelles sur la liberté, le bonheur et le sens Tagore les examine, à partir de la qualité des liens avec autrui, avec la nature et avec le réel universel. La lecture peut ainsi nourrir une réflexion exigeante sur le poids du moi possessif, la valeur de la contemplation et la dimension éthique de la vie quotidienne. Par rapport à de nombreux ouvrages de spiritualité, le livre se distingue par son alliance de prose poétique et de raisonnement philosophique. Il ne présente pas une sagesse indienne comme un exotisme destiné au public occidental, même si son contexte de conférence explique son effort de médiation. Il tente plutôt de formuler des problèmes communs à plusieurs traditions, le mal, la beauté, la connaissance de soi et la communauté humaine. Cette ambition universaliste, portée par une écriture dense, fait de Sadhana un classique à lire lentement et de façon critique, en tenant compte de son époque comme de sa remarquable cohérence intérieure. Si vous souhaitez soutenir Rabindranath Tagore, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.